Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Encore une fois cette semaine, on aura le plaisir de discuter ensemble de plein de sujets. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur de ce beau programme. Et pour m'accompagner, le trio de l'enfer est là. On est les trois rassemblés après une semaine d'absence. Daniel, on s'est ennuyé.
Oh, vous êtes ennuyé.
Ben, on dit ça pour être fin, là, mais non.
Non, pas vraiment. Dans le fond, on forme pas vraiment un premier trio. On est plus le quatrième.
Oui, puis on est régulièrement benché par le coach de la vie.
Ben, ouais. C'est toi notre coach, Jean-Benoît. Fait que si tu nous benches, en tout cas, whatever.
Ah, je suis comme Reggie Dunlop. Moi, je suis comme joueur-entraîneur. C'est cool, ça.
C'est profond, votre affaire.
Référence obscure du cinéma. Et cette troisième ailier gauche ou droit, ça dépend de ton côté, là, naturel. On s'en fout.
Moi, je suis plus le water boy.
Hey, boy, ça fait un sale trio.
Luc Desormeaux. Ça, t'allais dire badaboum.
Encore aussi, si tu veux. Je peux être le badaboum. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, avec toutes les convergences, je suis le badaboum water boy.
Luc Desormeaux est avec nous. Salut, Luc.
Salut.
Et cette semaine, ben, encore une fois, comme je le disais, plein de sujets qu'on va aborder. On a commencé depuis quelques temps, vous avez certainement remarqué, à y aller avec des phrases en début d'émission, ça nous permet de discuter, de jacasser de sujets qui ont animé notre dernière semaine. C'est Daniel qui avait lancé l'initiative et on s'est pris au jeu, moi et Luc. Et cette semaine, on a des fails chacun de notre côté. Je vais en faire un. Luc, après ça, on va aller avec le tien, puis j'en ai un deuxième parce que ma semaine a été assez rock'n'roll. Je veux parler, écoute, je m'attaque à quelque chose de gros. Je m'attaque à Walmart. Puis je les Walmart. Nomme pour la peine.
Walmart, là où tu trouves ben, pas grand, pas, tout, ben du stock, mais tout, pas nécessairement
mais...
les amis.
Ouais, c'est ça. Tout, mais à une qualité variable.
Mais là, la madame sera pas contente.
Non, peut-être pas, non. Walmart, pourquoi j'en parle cette semaine, c'est que je me suis finalement décidé à m'acheter une console de nouvelle génération. Mon choix s'est arrêté sur la Xbox One de Microsoft. Et là, ben, je me disais, ça me tente pas d'aller dans les magasins parce que de toute façon, il n'y en a pas ces tablettes. Des Xbox One, c'est discontinu, tout comme la PlayStation 4. Il n'y en a pas. Fait que ça ne me donne rien de me promener. Je vais faire le tour des sites Internet. Magasinage de lâche, oui, mais magasinage efficace. Et là, ben, je fais le tour. Toutes les différentes chaînes qui, chez qui on peut trouver possiblement ce genre d'articles-là. Et finalement, je tombe sur le site de Walmart Canada. Je fais une petite recherche Xbox One. On en a en stock en ligne. Fait que là, je me dis, vite, je commande. Ça, ça se passe dimanche, il est peut-être 13h, c'est le début d'après-midi. Je reçois un courriel aux alentours de 23h le soir me disant, Monsieur Gagné, nous n'avons plus de cet article, on est en rupture de stock, on va devoir attendre la prochaine livraison de l'article pour pouvoir vous l'envoyer. D'ici là, ben, pendant 28 jours, votre commande est maintenue. Si on a l'article, on vous l'envoie et c'est à ce moment-là qu'on va vous facturer. Si jamais en dedans de 28 jours, on ne reçoit pas l'article, on va annuler la commande. Si vous êtes d'accord, bon, grosse patate. Okay. C'est assez simple. Ce bout-là, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je comprends que ça peut être discontinu. Ça arrive, des choses comme ça. La planète au grand complet est discontinue de consoles de nouvelle génération.
On n'appelle pas ça discontinu, par exemple. On appelle ça en rupture de stock. Discontinuer, ça veut dire...
C'est vrai qu'il arrête de le produire. Hein? C'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est pareil.
Ouais, mais... En tout cas, j'avoue que je me suis trompé de thème. Bon, peu importe. Il n'y en a pas ces tablettes et il n'y en a pas sur le site Internet. Là-dessus, j'ai pas de trouble. Le problème, c'est que le lendemain matin, je me dis, bon, ben écoute, je vais aller vérifier, genre, s'il y en a maintenant. Et sur le site de Walmart Canada, il indiquait encore qu'il y en avait. Donc là, je m'en vais sur Twitter, j'écris à Walmart Canada, je dis, pourquoi vous me dites qu'il n'y en a pas, si vous n'en avez pas entre vos mains pour pouvoir m'en envoyer une, alors que sur votre site Internet, vous mentionnez qu'il y en a. Ça, c'est vers 8-9 heures le matin. Je me lève quand même relativement tôt à cause du travail. Je vérifie sur l'heure du dîner. Et encore, on mentionnait qu'il y en avait. Ça a pris quelque chose comme 24 heures après le moment où est-ce que j'ai passé ma commande et le moment où est-ce que le site Internet a été mis à jour pour annoncer qu'il y avait rupture de stock. Le problème que j'ai là-dessus, c'est que dans la situation actuelle des consoles de nouvelle génération, c'est déloyal de mentionner sur ton site Internet que tu as quelque chose alors que tu ne l'as pas et que tous les autres disent ne pas l'avoir. Autrement dit, ça incite les gens à passer des commandes chez vous et par le fait même, tu achètes la console, il vient pas de jeu avec, tu dis, ben écoute, dans le même envoi, je vais acheter un ou deux jeux, tel article, telle affaire, tu sais, tu vas faire ton magasinage à la place là, vu que tu achètes la console. Sauf que le problème, c'est qu'on te fait de la fausse représentation. On dit qu'il y en a, mais il y en a pas. Et tu passes ta commande dans le vide.
T'aurais changé d'idée et t'aurais acheté une 360.
Ben peut-être, non mais c'est peut-être pas non plus. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est déloyal envers les autres. C'est que tu prends avantage de la situation avec une information qui est complètement fausse, alors qu'on s'entend-tu là. Nous autres, on le sait, là. Luc, tu as travaillé là-dessus d'ailleurs cette semaine. On met un podcast à jour sur iTunes, on fait juste envoyer le fichier, puis le fil RSS de tous nos abonnés se met à jour en dedans de quelques minutes. Je peux pas croire que Walmart, avec son satellite, n'est pas capable de mettre à jour son nombre de stocks de consoles sur son site Internet automatiquement.
Ouais, mais là où j'ai un problème aussi avec ta situation, c'est que c'est après le fameux 28 jours que tu parles. Donc, dans le fond, s'ils n'en ont pas après 28 jours, ben ta commande est annulée. Donc, il faut que c'est toi qui repogne à courir d'un magasin à l'autre
pour ouais, exact.
Espérer.
Sauf que tu peux annuler ta commande n'importe quand là, durant ces 28 jours-là. Sauf que eux, automatiquement, après 28 jours, s'ils n'ont pas reçu le produit, ils annulent la commande, ils vont te le signaler. Je ne sais pas, là, je ne me suis pas rendu là, là, mais ils vont te signaler qu'ils n'ont plus l'article. Mais pendant ces 28 jours-là, elle est active, puis au cas qu'ils reçoivent, tu es peut-être sur le hold de ton achat sur une autre source.
Ouais, mais que toi, tu annules ta commande, ça, c'est une chose, puis c'est correct. Parce que c'est ta décision, tu sais. Je veux dire, c'est toi qui as voulu commander la console, c'est toi qui l'annule après. Tu sais, c'est tes actions, tout. Mais que 28 jours plus tard, qu'il soit toujours en rupture de stock, puis qu'il annule ta commande d'un coup, je sais pas, là. Mais, tu sais, je trouve qu'on est une gang de moutons, tu sais. Puis, je veux dire, il faut faire avec les décisions des corporatives. C'est pas mon problème s'ils sont en rupture de stock, puis qu'ils mettent qu'ils en ont en inventaire, tu sais. Moi, je m'attends, OK, ils en ont en inventaire, je passe ma commande. Comme ça, j'ai pas, après ça, à aller courir d'un magasin à l'autre, quitte à me mettre sur le hold pendant 28 jours ou plus, là, ou, tu sais. Moi, je me dis, si tu me dis que t'en as, puis que je commande, puis que tu me dis après ça que j'en ai pas, bon, moi, garde-moi sur le hold jusqu'à temps que tu vas en avoir, pas juste pendant 28 jours.
C'est probablement dans l'optique que le produit se fabrique plus, qu'il est discontinu, là, c'est le bon terme, là, Luc, c'est la bonne affaire?
C'est en rupture de stock, c'est ça. C'est
non, mais discontinu dit. Dans le sens de... il arrête de fabriquer le produit. Mettons là, que ce que j'ai commandé, parce que ça doit être un email automatique, là, mettons que ce que j'ai commandé sur le site Internet, le fabricant en fait plus. Après 28 jours, ben écoute, s'ils n'en ont pas reçu, ils doivent s'attendre à avoir recevoir leur stock avant ça. Et que ouais. Si en dedans de 28 jours, ils n'en ont pas reçu, c'est que le produit il se fait plus. Donc, ça annule ta commande. Je peux comprendre cette portion-là, là. Mais moi, c'est vraiment le fait que c'est le délai entre le moment où est-ce qu'on m'a envoyé le courriel me disant qu'il n'y en avait plus et le moment où est-ce que le site a été mis à jour. Pendant toute cette période-là, Walmart savait que son produit, il n'y en avait pas et que c'était... pas correct de dire qu'il y en avait parce que je suis probablement pas le seul à avoir passé ma commande là parce que tout le monde cherche des consoles de nouvelle génération.
Mm-hmm.
Ouais, c'est
non.
Fait.
Non, écoute, c'est frustrant, j'avoue.
Un géant de fait.
Que dans le fond, c'est quoi? T'as-tu pitché un oreiller? Comment t'as passé ta frustration?
Écoute, j'ai chialé sur Twitter puis il y a des gens qui ont fait comme hey, « arrête donc ». Puis il y a des gens qui ont fait comme « t'as bien raison ».
Et mais est-ce que Walmart est revenu? Non,
sûrement pas. Non, ils me sont pas revenus. Ils m'ont juste dit 48 heures plus tard que mon envoi était fait. Fait que, tu sais, le délai est pas énorme entre le moment où est-ce que j'ai passé la commande puis le moment où est-ce qu'ils ont reçu l'élément pour me l'envoyer. C'est vraiment le laps de temps entre leur mise à jour de site Internet et le moment où est-ce qu'ils savent qu'ils ont pu le produit. Et on s'entend-tu que Walmart ont pas besoin de procéder déloyal pour prendre avantage de la concurrence? Juste leur poids sur les prix versus la concurrence est un avantage, tu sais. Donc,
mais moi, je pense que ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont, ils sont allés, puis là, ils ont arraché un Xbox 360 d'un enfant à la caisse, et puis il a pleuré toutes les larmes de son corps.
Ils l'ont déguisé en Xbox One pour me satisfaire.
T'étais chroniqueur dans une émission.
Ben, que... OK. Ah non, écoute,
plein de gens écoutent, c'est de ta faute.
J'ai du poids, c'est sûr. Ben oui, j'ai du poids, mais en tout cas, c'était pas dans le sens physique.
On le sait tous, là, mais.
C'était pas dans le sens physique.
OK, pas dans ce sens-là.
Non, okay. Non. Okay. Luc, vas-y avec ton fil de ton bord. Tu voulais nous parler de. C'était quoi le sujet déjà?
C'est Tumblr.
C'est Tumblr, ouais. Parce que justement, je parlais qu'on avait notre fil RSS pour mettre à jour notre podcast et tu as dû travailler là-dessus à cause de Tumblr cette semaine.
Oui, merveilleux Tumblr que j'utilise depuis que j'ai commencé à faire du podcast en 2012. J'avais monté le blog, j'avais monté le site et tout ça. Et bon, je faisais tout là-dessus avec FeedBurner, tout ça. Le fil RSS de mon du site Tumblr était envoyé à iTunes. Et c'est ça qui fait que vous voyez à chaque semaine les épisodes de Réalité Augmentée apparaître ou les épisodes de Podcast Auto ou dans le temps Histoire de Gamer ou CJUAP. C'est à cause de ça que ça apparaissait sur iTunes. Fait que je reçois un email samedi après-midi qui me dit qui vient de Tumblr, qui me dit: on vous écrit pour vous dire qu'on ne supportera plus les redirections vers FeedBurner, donc désolé du dérangement. Fret net sec comme ça, sans à partir de telle date, sans avertissement vraiment. Fait que je prends sur moi de leur réécrire un courriel puis leur dire ben merci, mais à partir de quand est-ce que cela sera effectif? Et la réponse était ce l'est déjà. Donc merci pour l'avertissement d'avance.
Tu sais, capable de se retourner sur une scène, là, faut le faire. Un avertissement de même, pas évident.
Non, fait que branle-bas de combat en fin de semaine pour voir où je déménageais le tout. Et grâce à notre ami Steve Lévesque de la zone technoculturelle, que je remercie grandement.
Cet homme est un roi à travers les païens.
C'est ça. Il a pris son temps lundi passé pour me montrer un peu comment naviguer à travers WordPress. Et puis, donc, depuis ce temps-là, je suis rendu là. Donc, tout a été importé maintenant sur WordPress. Ça devrait être transparent pour vous. Donc, j'espère que quand je vais mettre le podcast en ligne, il va tout simplement apparaître sur iTunes et on sera tous soulagés. Mais on ne le saura pas tant que ça ne sera pas fait. Donc, ça va être en ligne jeudi matin. Si ceux qui l'écoutent sur les sites web et tout ça.
S'il y a un délai...
ça peut être à cause de ça.
Non, c'est ça. Vous avez raison.
Ça peut être à cause de ça. Donc, mais ça devrait apparaître quand même jeudi au courant de la journée, on va espérer. Ceux qui sont encore sur Tumblr, je vous invite fortement à déménager vers WordPress. Prenez le temps que ça prend pour apprendre la plateforme parce que c'est tellement plus convivial et puissant. Un coup qu'on connaît la plateforme, c'est tellement mieux que Tumblr. J'ai recommencé à monter des sites pour Réalité Augmentée. Je suis en train de transférer le podcast auto aussi là-dessus. Puis j'ai même, dans le temps, j'avais acheté mon nom de domaine à mon nom, à moi. Fait que je me suis monté une petite page personnelle qui va avoir un petit peu de stock dessus. Fait que c'est vraiment facile à utiliser. Ça fait vraiment un site beaucoup plus beau que ce que Tumblr pouvait offrir. Donc, Tumblr, ça ne sera qu'un au revoir très bientôt parce que je déménage tout mon stock puis je vais fermer mon compte. Ça va être tout. Vous allez m'avoir perdu. Pas que ça leur donne de l'argent parce que c'est un service gratuit, mais quand même. C'était une plateforme que j'adorais. C'est une plateforme que je trouvais le fun. Puis de juste décider comme ça, d'un coup de tête, de dire à tout le monde sans avertissement d'avance, ben regardez, on supporte plus ça. Ça affecte peut-être pas la majeure partie du monde qui sont sur Tumblr, qui ont juste des blogs, mais ceux qui font du podcast ou qui veulent mettre des choses en ligne sur iTunes ou à travers un fil RSS avec FeedBurner, ça marchera juste plus. Fait que tenez-vous-en pour averti. Mais si vous avez un compte Tumblr, vous avez probablement reçu le même courriel que moi.
Oui, probablement. Donc, et vous avez pogné la même chienne.
Ouais, ben si vous ne faites pas du podcast, c'est pas grave, ça ne vous affecte pas. Mais pour ceux qui font du podcast comme moi puis qui se fiaient sur FeedBurner pour envoyer les nouveautés à iTunes pour que ça apparaisse, ben ça ne marchera plus. Donc, on fait les valises et on déménage.
Deuxième fin de mon bar, Luc.
Ouais.
Moi, je m'attaque à un autre grand. Après Walmart, je n'arrête point, OK?
Tu vas t'attaquer à moi?
Non, Dieu, c'est hors de ma portée.
Ah,
je m'attaque
merci.
À Microsoft. Mais en fait, le problème date d'avant l'acquisition de Skype par ceux-ci, mais quand même, par la bande, c'est de leur faute, là. Fait que toi, Microsoft, oui, toi, Sens-toi menacé. Peut-être pas tant que ça, là, mais c'est, ouais. Ça peut te chatouiller un peu, là, mais pas beaucoup. L'histoire, c'est qu'il y a quelques années de cela, ça remonte à 2009. Je m'étais payé un abonnement sur Skype pour pouvoir faire des appels Canada-États-Unis. C'est illimité pendant 12 mois. Ça coûte environ 30$ et ça permettait d'appeler ma blonde, blablabla, tu sais, tout mon monde. Et je l'ai pris pendant un an. Cet abonnement-là, avant de ne plus décider de prendre l'abonnement. Le problème, c'est que j'ai remarqué le 17 janvier dernier que ma carte de crédit avait été soulagée d'un 30$. Pourquoi? Pour un renouvellement de cet abonnement-là qui date de 2009. Vous allez me dire, ouais, mais là, JB, écoute, tu payes ta Visa et tu regardes pas tes transactions? Oui, c'est en plein ça. Et,
un inconscient, mesdames et messieurs, un inconscient.
L'abonnement de base datait du 30 août, et après ça, ça s'est transformé en 20 janvier, 20 novembre, et là, 17 janvier. Fait que l'abonnement, là, le renouvellement a comme changé dans le temps. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que c'est bien beau de la part de Skype de dire, ben écoute, s'il l'a acheté une fois, il va vouloir continuer de l'acheter. Mais dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai parlé avec les gens de l'Office de la protection du consommateur et la loi au Québec spécule, en fait, dit que tu dois absolument, en tant qu'entreprise qui offre un service, informer ton client qu'il a un renouvellement qui s'en vient pour que celui-ci, c'est comme un reminder, là, un rappel, pour que celui-ci puisse dire « Non, non, j'en veux pas » ou puisse faire comme « Oh, est-ce correct, vas-y ». Donc, depuis 2009, ce paiement-là se refait année après année. C'est 30$, là, on s'entend, là, sur un an, sur 365 jours. C'est pas, écoute, je suis pas dans la rue, là. C'est pas un problème là, financier à ce point-là. Mais quand même, c'est un peu choquant de faire comme, ça fait comme 5 ans que j'aurai un service que je n'ai pas utilisé en pensant ne pas l'avoir. Donc, moi, je me suis informé auprès de l'Office de la protection du consommateur et pour une... problématique de 30$, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux faire une mise à demeure envers Microsoft, et là, ben, s'ils décident de se fâcher, t'es un peu dans le trou parce qu'ils ont pas mal plus de moyens que toi, ou tu cancelles officiellement ton abonnement. Oui, c'est ça. Ou tu cancelles ton abonnement comme du monde, là, tu fais sûr que c'est le renouvellement se fait plus, puis tu oublies ça, puis tu ravales ta patente et t'assumes tout le trouble que ça t'a donné. Et c'est ce que je vais faire. À part cette tribune-là que j'utilise aujourd'hui pour le souligner, j'ai pas grand-chose que je peux faire contre Microsoft. David contre Goliath, au moins il y avait un tire-roche. J'ai même pas ça, moi, contre Microsoft. On s'entend, tu sais. Donc, je vais laisser ça pour mort. Sauf que... Ben, c'est vrai, tu sais. Sauf que j'invite les gens, si vous êtes abonné à Skype, vous avez déjà acheté des crédits, déjà un abonnement, des choses comme ça, vérifiez votre liste de facturation, votre historique. C'est caché relativement loin sur leur site, mais c'est possible d'y avoir accès, de savoir quand est-ce que les paiements ont été faits, à quel moment, puis tout ça, là. Il y a moyen de le savoir et il y a moyen de se désabonner si votre abonnement se continue de façon perpétuelle. Et en plus... Autre dossier, c'est la même histoire, mais celle-là directement de Microsoft avec le Xbox Gold pour l'abonnement le mensuel qu'on paye. La loi stipule que quand tu envoies un courriel ou un message pour dire à ton client que son abonnement va se perpétuer, son reminder, là, ça doit être fait à l'intérieur des 3 mois. Et moi, je l'ai reçu au mois de décembre alors que mon abonnement se termine en septembre. Donc, on s'entend que entre décembre et septembre, le nombre de mois est beaucoup trop élevé. Et aussi, j'ai le temps d'oublier pas mal que mon abonnement va se renouveler automatiquement. Donc, Microsoft est un petit peu sur la ligne là-dessus, un petit peu délinquant là-dessus. À coup de quelques dizaines de dollars, s'assure qu'il n'y a pas personne qui va les attaquer en étant quand même dans l'illégalité. Sauf qu'à la gang, ça fait pas mal d'une couple de piastres. Additionner, ça fait quand même un pas pire montant. Donc, vérifiez vos affaires. Tout ce qui est renouvellement automatique, c'est un peu des attrape-nigauds à long terme parce qu'on finit tous par oublier, la vie va vite, puis on s'en rappelle plus.
Des attrape-JB?
Ouais. Synonyme de nigo, c'est ça.
Mais faut faire attention aussi parce que souvent, là, regardez, l'abonnement Xbox Live Gold, là, ça vaut vraiment pas la peine de le renouveler automatiquement. Il vient toujours moins cher dans un magasin au courant de l'année. Puis ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'acheter d'avance, le rajouter à votre compte, puis ça va rallonger votre abonnement pour le nombre de temps que vous venez d'acheter. Donc, si vous achetez un 12 mois de plus, puis il vous reste 6 mois, bien, vous allez avoir 18 mois d'Xbox Live. Ça vaut pas la peine de le renouveler, là. Moi, je me suis fait avoir cette année, normalement, puis là, je l'ai cancellé. J'avais laissé, je pense que j'ai payé comme 80$ chez Microsoft pour renouveler mon abonnement. Je me rappelle pas comment ce qu'il charge, mais il est tombé en magasin, je pense, comme à 59 ou à 49 une semaine plus tard, là.
Ouais.
Ça vaut pas la peine. Cancellez ça, puis regardez les prix de temps en temps dans les magasins, puis quand ça passe, achetez-le.
Oui, il y a toujours des rabais éventuellement. En fait.
Vous allez sauver de l'argent. C'est pas une bonne idée d'y aller avec le renouvellement automatique pour Xbox Live. Là. On se fait avoir.
Fait que Walmart et Microsoft la même semaine, à ta boîte qu'on est, on est pas peu heureux.
Ouais, t'es avec tout ça, puis avec ton affaire de GSP. Là.
Oui.
Il est retraité, il va avoir du temps pour te chercher pour ta pétarienne.
Ça sent bien, je sens ça.
Je dis ça de même.
Il va être commandité par Microsoft et Walmart quand ils vont venir ta pétarienne. On va des tatous partout.
Ça se peut que le budget soit assez élevé pour la tâche.
Ouais. Il va te péter en luxure.
Oui.
En tout cas, il va être commandité, tout bien habillé, votre pétaille, puis ça va faire plaisir à plus que lui.
Ouais. C'est un pétage de gueule, une présentation de Walmart.
Pendant qu'on est un peu dans le chiolage, Daniel, c'est pas un fail nécessairement, mais tu voulais nous parler cette semaine de la situation de Nintendo. Il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées sur le sujet, positivement et négativement. Et tu voulais remettre un peu les pendules à l'heure, voir un peu ce que tu avais pu observer sur le web, les différentes informations qui s'étaient rendues jusqu'à toi par rapport à la situation de Nintendo. Ils sont pas morts, là. Mais il y a des accros, tu sais. C'est pas parfait comme parcours actuellement, là.
Non, puis il faut faire attention, tu sais, c'est facile s'emporter, c'est facile aussi, adhérer aux théories de catastrophe, là, puis de dire que Nintendo, il voit l'échec, puis que, dans le fond, la compagnie est mieux de se tourner uniquement vers le développement de jeux, etc. Sauf que faut remettre ça en perspective aussi. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus sur les échecs du passé de Nintendo qui font en sorte que... qui ont fait en sorte que la compagnie n'est pas morte, là. La compagnie est toujours là, mais ça, l'histoire de Nintendo est quand même jonchée d'échecs. Ça n'a pas été toujours des succès. Je vais juste nommer une console, entre guillemets, la Virtual Boy...
Ce succès incroyable.
Oui, c'est un succès incroyable que j'ai eu le bonheur de tester. Ben, pas de tester, mais d'essayer pour la première fois dans un Toys R Us. Tu sais, parce qu'à l'époque, j'étais tout petit. Jean-Benoît n'était qu'un poupon à ce moment. Et Luc, ben, toi, t'es entré dans ta vie adulte.
Moi, c'est ça. Moi, j'étais déjà marié, j'avais un enfant.
Oui, absolument. Donc, mais à cette époque-là, je me rappelle, je suis entré dans le Toys R Us, puis tu sais, la bébelle de Nintendo, tu sais, c'était tout le temps ce que tu voulais avoir parce que Nintendo, c'était hot, puis tu sais, quand t'avais la nouvelle machine de Nintendo, t'étais hot. Sauf que j'ai joué à peu près 2 minutes à, je pense, c'était Mario Tennis à l'époque, puis j'étais pas capable, ça... L'image était bizarre, le jeu était bizarre, et les feelings que j'avais après avoir déposé cette soi-disant manette du Virtual Boy étaient encore plus bizarres.
Moi, j'avais une de mes amies qui en avait une, et c'est ça qui était drôle avec cette console-là, c'est que c'était censé être une console portable, mais tu sais, simili-portable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la façon que la 3D est faite à l'intérieur, c'est un ingénieux processus fait avec plusieurs petits miroirs qui pivotent puis qui changent d'angle. Sauf que dès que tu bouges la console, tu la cognes, tu désaxais les miroirs, puis ça scrapait la patente au grand complet, là. C'était vraiment minutieux, c'était vraiment une bidule faite, là. C'était fragile, là. Pour une console mobile, là, c'était vraiment pas l'idée du siècle. Et moi, c'était ça, là. C'est que elle disait, « Mais tu peux juste regarder d'un œil. » Comment ça? C'est ça, elle l'avait cogné, n'importe quoi, là, c'est un enfant qui a ça et qui veut se promener avec, là, ben non, ça tenait pas très très longtemps, là.
Ben, c'est ça, tu sais, puis en même temps, la Virtual Boy, c'est, ouais, comme tu dis, c'était censé être une console portable. En fait, c'était la nouvelle bébelle de la lignée de la Game Boy. Puis on se rappellera que le vrai successeur à la vieille, vieille Game Boy, ça a été la Game Boy Advance en 2001. Il y a eu la Game Boy Color, mais tu sais, en fait, c'était juste une console qui ajoutait de la couleur sur tes vieux jeux Game Boy, donc au lieu de jouer en... avec des épinards, là, parce qu'à l'époque, c'était vert et jaune.
C'était le Instagram des consoles portables. C'était comme un filtre avec des couleurs par-dessus
le Game Boy de base. Mais c'était hot.
C'était vraiment hot. Tu sais, on avait quatre couleurs.
Cool. Ouais, puis tu dépassais je sais pas combien de batteries là-dedans. Là. Fait que, mais tu sais, il a fallu attendre en 2001 parce que la Virtual Boy a été un échec. Mais ça, c'est un échec parmi plusieurs autres de Nintendo dans son histoire. Puis plus récemment, tu sais, souvenez-vous de la GameCube. La GameCube n'est pas ce qu'on peut appeler un échec flagrant, mais c'est quand même une des consoles de salon de Nintendo qui a le moins bien vendu. À 22 millions, elle a été dépassée par la Xbox, puis surtout par la PlayStation 2. Donc ça aussi, ça n'a pas été évident. Et je me rappelle quand la 3DS est sortie, on donnait pas long feu à cette console-là, puis on pensait que Nintendo était fini du côté du marché des consoles portables. Pourtant, aujourd'hui, la Nintendo 3DS, il y a plein de monde qui en ont, puis c'est une console qu'on recommande les yeux fermés. Donc, quand le monde dise « Ah, la Wii U, c'est un échec, puis Nintendo est mieux de se recycler dans d'autres choses », calmez-vous les nerfs, parce que Nintendo a toujours trouvé un moyen de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que Nintendo va encore trouver une façon de s'en sortir. Par contre, je suis pas, tu sais, je mets pas mes lunettes roses, puis je vois pas le monde avec, tu sais, des beaux petits éléphants qui volent, puis des licornes. Là.
Ce soir, l'amour est dans tes yeux, Daniel. Je le sens.
Ouais, ah non, moi j'aime mieux, la chanson de Francis Martin, le flirter avec une femme d'expérience. Moi, ça m'apporte plus de bonheur dans ma vie, mais toi. C'est d'avoir de l'amour dans ton cœur, c'est correct.
Non, mais dans le sens que, tu sais, je vois que c'est pas un discours de gars qui déteste l'entreprise. C'est juste un discours de gars qui voit qu'il y a des plus, il y a des moins des fois dans la colonne des ventes, là, des profits, mais qu'en bout de ligne, ça ne fait de toi qu'une entreprise qui est plus forte. Le passé garant de l'avenir, tu peux ressusciter de tes cendres, tu peux faire des bons coups, tu peux en faire des moins bons. Y a pas personne qui dit que Microsoft en fera pas des mauvais, puis Sony, même chose. D'ailleurs, tu sais, je pense à ça actuellement, là, la PlayStation 4 actuellement n'est pas disponible là où elle est construite et où elle a été inventée. Elle n'est pas disponible au Japon actuellement. Les gens de Sony, là, ils jouent avec le feu avec ça, là. Parce que le Japon, là, c'est de là qu'ils viennent.
La Xbox, est-ce disponible là-bas?
La Xbox va l'être bientôt, mais plus tard, après.
Moi, être Microsoft, je me déniaiserais.
Ben oui, mais tu sais, vous comprenez, là, c'est que le marché niche de Sony, ce qui fait qu'ils ont un gros poids dans la balance, c'est pas les États-Unis, c'est le Japon, c'est l'Asie. Ils sont en train de bouder leur territoire pour essayer d'en conquérir un autre. Ça joue vite, hein, les games de pouvoir. C'est pas dit que la PlayStation 4 va être un succès à long terme. La recette est bonne, c'est une sauce qu'on connaît bien, c'est une sauce à spaghette avec plus d'épices, là. C'est une nouvelle version améliorée, c'est pas un renouveau. Mais il y a rien qui dit que les jeux vont être au rendez-vous, le succès va y être. Et en plus, quand tu te mets peut-être à dos ton marché premier, tu sais, tu tires un peu dans le pied ce que Nintendo a jamais fait. Nintendo est encore deuxième au Japon. Nintendo, dans les consoles mobiles, là, la 3DS, là, c'est 20 millions d'unités au Japon. Là. Ils sont loin d'être morts. Là. Il y a encore de l'argent dans les coffres.
Là. Ah, absolument. Puis c'est sûr que les gens, je dirais, ben, je veux pas généraliser non plus. Là,
oui, généralise, Daniel.
OK. Les gens.
Tout le monde, là.
Beaucoup de monde, mettons. Il adhère vite aux catastrophes, tu sais. C'est comme, oh, Nintendo va pas bien, ben Nintendo est fini. Mais tu sais, Sony irait pas bien. Au début de la PS3, ça allait pas bien pour Sony, vraiment pas bien. Puis là, c'était tout de suite, ah, ben c'est ça, Sony se prend pour un autre, Sony est fini. On dirait que c'est des réflexes comme ça, j'allais dire des réflexes de réflexion, là, mais en tout cas, tu sais, c'est les gens sont vite sur le piton à dire qu'une compagnie peut être finie. Quand, dans le fond, quand tu regardes le passé d'une entreprise, c'est il y a rarement juste des succès. Il y a aussi des échecs, mais ça ne veut pas dire que ça a condamné la compagnie. Écoute, au niveau de Nintendo, par contre, ce que je remarque, c'est que Nintendo apprend pas nécessairement de ses erreurs parce qu'il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup de, en tout cas, entre guillemets, solutions qui adaptent, qui font, puis qui sont pas... tu sais, je veux dire, ça a déjà connu des échecs dans le passé, puis on dirait qu'ils reproduisent ça encore. Puis, tu sais, c'est pas nouveau dans le sens... quand on dit que Nintendo, au niveau du support des développeurs tiers, c'est pas vers jeu. Tu sais, moi, il me semble que quand j'ai commencé à couvrir l'industrie de façon plus professionnelle, il y a à peu près 15-16 ans, il me semble que c'est ça que je disais. Puis, je le dis encore aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, sur la Wii U, il n'y a pas beaucoup de support de développeurs tiers et il y a encore moins d'exclusivité de la part de développeurs tiers. Tu sais, j'entends des fois les gens dire, ben, si t'aimes pas Mario, si t'aimes pas Zelda, puis si t'aimes pas Donkey Kong, en fait, si t'aimes pas les jeux Nintendo, ben, t'as pas grand-chose. Malheureusement, c'est vrai, tu sais. Je veux dire, les jeux multiplateformes vont souvent sortir sur d'autres consoles et ça arrive que la console de Nintendo va être boudée par rapport à ces jeux-là. Regardez juste, par exemple, tu sais, au mois de février, il va y avoir Thief qui va sortir, qui est un jeu très, très attendu, mais ça sort sur les plateformes de Microsoft et Sony, mais pas Nintendo. Donc, ça, c'est une erreur de Nintendo qu'on reproduit.
Et pourquoi?
Ouais, mais ça, c'est-tu vraiment de leur faute? C'est EA qui a décidé de pas sortir de jeu sa Wii U. C'est pas Nintendo qui leur a dit vos jeux sont poches, puis tout ce que vous voulez, c'est du DLC. Venez pas ici.
Ouais, mais en même temps, moi, je dirais c'est un peu de la faute à Nintendo dans le sens que ils se condamnent eux-mêmes à l'avance. T'sais, c'est sûr que. Moi, je regarde pas juste la puissance d'une console. Je dirais que ce qu'on m'offre sur la console est beaucoup plus important que ce qu'elle a en dedans. Par contre, quand t'es un développeur, quand t'as une machine qui t'offre beaucoup plus de possibilités, que où il y a une puissance que tu peux beaucoup plus exploiter, ben c'est sûr que tu vas reluquer de ce côté-là. Et parce que tu reluques vers la console la plus puissante qui t'offre plus de possibilités, ben tu sors tes jeux-là, ce qui fait en sorte que ça ouvre le portfolio de la console.
Mais c'est drôle, Daniel, parce que tu nous parles de la qualité des titres, des tierces, mais quand ils se donnent la peine, et je pense que c'est là le problème, c'est que on utilise la solution facile trop souvent là, de dire « Ah ben là, vu que c'est différent, on se donnera pas le trouble », mais quand on se donne le trouble, mettons ça entre guillemets, là, de développer de la bonne façon sur la Wii U, on arrive avec des jeux qui ont leur meilleure version sur cette console-là. Je pense à Rayman, je pense à Deus Ex, je pense au dernier Batman. C'est là-dessus que tu as les meilleures versions de ces jeux-là, parce qu'avec l'écran tactile, ça ouvre un nouveau monde de possibilités que tu ne peux qu'à peine imaginer avec les autres consoles. Ils n'auront pas ça, là. C'est, tu sais, quand on a fait la Wii, là, puis qu'on a voulu rattraper là, chez les autres consoles, on a sorti la Kinect, un périphérique externe, on a sorti des nouvelles manettes avec la Move chez Sony. Là, imagine, là, on veut avoir les plus grandes possibilités, faut copier Nintendo. On va-tu être en mesure de modifier les manettes pour y rajouter un écran de 9 pouces? Non, là, tu sais, c'est impossible. On peut pas aller rattraper ça, là. Fait que, tu sais, je vois des avancées technologiques, des avancées idéologiques chez Nintendo. Je pense juste que les développeurs ont aussi un peu la pas du gain. Tu sais, on veut la facilité pour un maximum de profit. Et Nintendo, c'est pas ça qu'ils offrent. Ils offrent une option plus compliquée pour un profit qui va être moindre.
Ouais, ben Nintendo, en fait, est beaucoup dans sa philosophie d'offrir quelque chose d'autre et non pas de tomber dans, comme tu dis, dans la facilité, dans ce qui va juste générer du profit. Nous, ben en fait, je dis nous, mais mettons que j'étais quelqu'un de Nintendo, notre philosophie, c'est offrons quelque chose qui est pas conventionnel. Mais en même temps, je dirais, c'est beau, mais ça provoque un peu la situation dans laquelle ils sont maintenant. C'est-à-dire que les développeurs privilégiant la voie de la facilité à certains moments, ben font en sorte qu'ils vont sortir leur jeu sur d'autres consoles. Et parce qu'ils sortent leur jeu sur d'autres consoles, puis parce que ces autres consoles-là ont plus de jeux, ben ça attire des joueurs vers ces plateformes-là, ce qui fait en sorte que les consoles de Nintendo pognent moins, les consoles de salon. C'est sûr que la 3DS, les ventes sont moins élevées que ce que Nintendo anticipait, mais c'est quand même des très bonnes ventes. Là, on parle de 13 millions de consoles là, pour l'année financière en cours. C'est quand même pas négligeable. Mais au niveau de la Wii U, quand tu penses en vendre 9 millions pour clôturer ton année financière, puis que finalement tu dois réviser tes prévisions de vente à 2,8 millions, ça fait mal. Ça fait très mal, surtout que Sony puis Microsoft risquent d'en avoir plus vendu.
Ouais.
De leur console. Donc ça, c'est sûr. Point où je voulais aussi revenir, c'est au niveau des tablettes et téléphones intelligents. Il y en a beaucoup qui disent Nintendo devrait embarquer là-dedans, Nintendo devrait plonger là-dedans parce que c'est un marché où il y a énormément de joueurs, où on peut rejoindre un public qui est excessivement large aussi, parce que aujourd'hui, disons qu'il y a plus de monde qui n'ont pas de téléphone intelligent ou pas, qui ont un téléphone intelligent ou une tablette que du monde qui en ont pas. Le problème avec ça que je vois, je dis pas que Nintendo doit pas explorer cette voie-là, mais le problème que je vois, c'est, ok, c'est bien beau, là, on sort un Mario là-dessus, mais est-ce que des contrôles tactiles d'un Mario, ça serait vraiment bon? Moi, je me pose la question, tu sais. Je suis pas sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, contrôler un Mario avec des boutons sur un écran, je sais pas. Je suis pas sûr que ça serait...
Surtout intuitif. Que certains tableaux de Mario, ça prend une précision assez incroyable.
C'est ça.
Pas sûr.
Tu sais, je suis vraiment pas sûr. Un Zelda aussi, avec des contrôles tactiles... Pas sûr non plus. Tu sais, Pokémon peut-être, là.
Un jeu adapté, je dirais oui. Gars, Ubisoft a sorti des jeux de Rayman sur la tablette. Pis c'est des jeux adaptés. C'est que tu contrôles pas nécessairement le bonhomme. Tu touches pour le faire sauter. Tu touches pour le faire donner un coup de pied. Tu touches pour faire certaines choses. Mais il court tout seul. Tu sais, t'as pas à faire courir le bonhomme d'un côté ou de l'autre de l'écran. C'est Rayman, Jungle Run, des choses comme ça. C'est adapté pour la tablette. Un jeu de Mario adapté pour la tablette, peut-être. Mais juste ressortir Super Mario Bros. Wii sur un iPad, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça serait jouable.
Je suis pas sûr, moi non plus, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que Nintendo pourrait explorer le marché des tablettes et des téléphones intelligents pour publiciser puis pour essayer de vendre les vrais jeux, entre guillemets, sur ces autres consoles. Ça, je pense que oui, c'est une... c'est un chemin intéressant à explorer. Un peu comme Ubisoft l'a fait avec Rayman Juggle Run pour Rayman Origins et Rayman Legends. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une voie à explorer pour Nintendo, de sortir des espèces de mini-jeux ou des espèces de versions adaptées de certains titres qui seraient évidemment beaucoup plus courtes que les jeux en tant que tels, mais pour publiciser finalement, puis pour faire découvrir à des non-initiés ses propres jeux qui sont disponibles sur d'autres plateformes, ça, je pense que ça pourrait être une voie intéressante ou une stratégie intéressante à explorer. Mais j'avais lu un article sur pourquoi Nintendo ne devrait pas aller vers ce marché-là. Puis j'étais quand même d'accord avec l'auteur. Il disait, entre autres, que des versions de jeux Nintendo qui seraient uniquement disponibles sur les plateformes mobiles, ça serait pas une bonne chose. D'autant plus que, bon, Nintendo veut quand même pas se tirer dans le pied, là, parce que eux-mêmes offrent des consoles portables. Mais en plus, il disait, mettons qu'on tire profit d'une manette pour téléphone intelligent ou encore pour tablette. Le marché est tellement petit à ce niveau-là que ça vaut pas la peine là, dans ce temps-là. T'sais, je veux dire, qui va s'acheter une manette pour jouer sur sa tablette ou son téléphone intelligent? Il y en a pas beaucoup.
C'est très limité, oui.
C'est ça. Fait que, t'sais, je pense que Nintendo peut explorer cette avenue-là, mais tout en gardant la stratégie de publiciser ses vrais titres qu'il développe pour ses propres consoles. Mais ça, c'est mon avis. Est-ce que Nintendo va le faire? Je ne sais pas. Pour le moment, ils ont nié toutes les rumeurs. Ce que j'aime pas non plus, c'est que la seule stratégie pour essayer de hausser, ou en tout cas de relever leurs finances, c'était de couper le salaire de Satoru Iwata et de Shigeru Miyamoto. Donc, ils vont couper leur salaire de 50%. Donc, ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. Puis, en tout cas, dans le passé, ça n'a pas vraiment donné de résultats.
Mais ça encourage toujours le monde à travailler plus.
Oui, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai écouté un documentaire du côté de Télé-Québec. Un documentaire sur... ça s'appelle « Les grands moyens ». C'est Bernard de Rome, d'ailleurs, qui anime ça. C'est en 4 épisodes disponibles sur le site Internet de Télé-Québec. Allez écouter ça. Sur la vision des riches du Québec, de la société du Québec. Et il y en a un qui disait, entre autres, c'est un monsieur Vachon qui est à la Banque nationale, qui est DG là-bas, qui disait, tu sais, on demande à quelqu'un de gérer les effectifs, les actifs d'un État, le Québec, et on le paye des pinottes. Je fais à peu près 20 fois son salaire. Puis on lui demande d'être meilleur que ce que moi je suis capable de l'être, tu sais. Si on veut la crème, donner-leur le salaire de la crème, c'est ça que tu veux attirer. C'est pas en coupant les salaires des dirigeants que tu vas nécessairement arriver à des meilleurs résultats. Mettre des objectifs, mettre des choses à atteindre, tu sais, pour qu'il y ait un meilleur salaire grâce à ça. Mais couper, je suis pas sûr si c'est la meilleure solution. Tant qu'à ça, change de peut-être dirigeante. C'est peut-être plus ça que tu as besoin, un changement de mentalité, brasser un peu les cartes.
J'avais évoqué cette idée-là dans un autre de mes articles que j'ai écrit.
T'écris ton bain, toi.
J'écris tout le temps, moi, Jean-Benoît. Tout le temps. Même sur toi, là, quand je m'ennuie, j'écris des poèmes dédiés à Jean-Benoît.
Pour lire ce contenu exclusif, achetez le DLC.
Oui, absolument. Mais tu sais, j'avais évoqué ça. Est-ce qu'un changement de tête, ça serait utile pour Nintendo? Je ne sais pas. Je sais que le parcours de Satoru Iwata, tu sais, il faut dire que quand même, il prenait la relève d'un grand bonhomme là, qui était Yamauchi, là, le président de Nintendo qui avait transformé la compagnie d'une compagnie de jeux de cartes en une compagnie de jeux vidéo reconnu mondialement. Donc, c'était pas rien comme succession. Par contre, le parcours de Iwata est pas nécessairement reluisant. T'sais, on reproche beaucoup à Iwata d'être très conservateur. On lui reproche aussi de mal publiciser les produits de Nintendo, de pas avoir de vision globale. Donc, le parcours, tu sais, il y a eu la Wii là, qui a aidé à cause de l'effet de nouveauté, mais Satoru Iwata ne fait pas l'unanimité au niveau de la direction qu'il prend pour Nintendo. Mais écoute, lui, il l'a clairement dit, il ne démissionnera pas. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais écoute, chose certaine.
Faisons le calcul, Daniel. À part la Wii, là, moi, je recule jusqu'à la Nintendo 64. Pour voir des consoles qui clashent avec le reste et qui ont des résultats décevants par rapport aux attentes qu'on a en eux. Là. Ça fait longtemps, là.
Oh oui, ben c'est, tu sais, entre la Wii et la Nintendo 64, il y a eu la GameCube, puis je l'ai évoqué tantôt. C'est une console dont les ventes totales et globales ont déçu. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis Iwata, ça fait pas l'unanimité. Puis il faut pas se leurrer non plus. Chez Nintendo, il y a une vieille garde là en ce moment. Tu sais, sans rien enlever à Miyamoto, sans rien enlever non plus à... désolé, son nom m'échappe, mais aux directeurs de la franchise Zelda, c'est des créateurs d'exception, mais c'est des créateurs qui se font vieux. Là. Wow. Et est-ce qu'il va y avoir une relève pour eux? Est-ce que Nintendo va pouvoir s'appuyer sur cette relève-là? Un jour, Miyamoto va prendre sa retraite. Là. Il n'est pas éternel, lui. Fait que, est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur des créateurs qui ont le même potentiel créatif que Miyamoto? Je le sais pas. Fait que c'est ça aussi qui est inquiétant. Mais bref, tout ça pour dire que oui, la situation de Nintendo est préoccupante, mais avant de condamner la compagnie, regardez son histoire. La compagnie s'est déjà remise de plusieurs difficultés. Moi, je crois au potentiel de cette compagnie-là. Elle a un bassin de créateur qui est exceptionnel. Je pense que la compagnie a beaucoup encore à nous offrir pour plusieurs années, mais c'est clair qu'il faut qu'il s'adapte au marché actuel. C'est clair que Nintendo a des visions qui sont un peu arriéristes, qui sont un peu conservatrices aussi. Puis je pense que, dans le fond, il y a un examen de conscience, mais il y a aussi un examen du marché du jeu vidéo actuel qui doit être fait. Puis on doit proposer une vision d'avenir qui... En tout cas, qui va au moins permettre de croire que le meilleur est à venir.
On le verra, on verra. Hein? Dieu seul le sait et le Yarb sans doute, comme disait l'autre. On verra, on va être là pour observer la situation et l'analyser. Luc, de ton côté, toi, tu vas nous parler du grand méchant EA qui a développé un autre jeu de la saga des Need for Speeds. Cette fois, c'est Rivals que tu as pu tester. Tu as joué à ça sur PC. C'est disponible aussi là, sur toutes les autres consoles 360, PS3, les nouvelles générations aussi, à part la Wii U, la Wii, puis...
C'est
pas mal disponible partout.
Pas les consoles de Nintendo, parce que, bon, EA ne veut rien savoir de la Wii U. Mais bon, oui, Need for Speed Rivals, un jeu de course. Bon, Need for Speed qui revient parce que, bon, on sait tous, y a les dernières critiques de du dernier jeu de Need for Speed avaient été plutôt bof.
Moi, le dernier que j'ai acheté, c'est The Run. Je trouvais le concept intéressant, l'idée de une course à travers les États-Unis. Mais quand tu traverses les États-Unis en à peu près 5 heures de jeu... je trouve que la pilule est dure à avaler. Le concept est génial, je trouvais l'idée bonne, mais le rendu n'a jamais été à la hauteur des attentes. Moi, j'ai décroché à partir de ce moment-là.
C'est ça, puis il y avait une espèce d'effet d'élastique que quand tu dépassais un rival dans ce jeu-là, à un moment donné, il revenait puis il te dépassait comme si tu étais arrêté sur le bord pour arrêter de faire un petit peu pis. C'était presque drôle et amusant. Ouais. J'ai toujours été un amateur de la série Need for Speed. Je joue à Need for Speed depuis que je suis tout petit. Bon, OK. Bon, jeune, mettons. Et puis, j'ai toujours aimé la série. J'ai décroché à un moment donné parce que c'était trop et c'était devenu plate. Puis, on utilisait n'importe quel prétexte pour faire un jeu de course, dont The Run, qui était, comme tu disais, une très bonne idée. J'avais bien aimé l'idée, mais l'exécution avait été, bon, plutôt ordinaire. Need for Speed Rivals, on revient au bon principe de Need for Speed Hot Pursuit ou un petit peu Most Wanted, c'est que on a deux clans. On peut jouer les policiers et on peut jouer les ce qu'on appelle les racers ou les courseurs ou les espèces de courseurs de rue, de coureurs de rue illégaux. Ce qui est bien, c'est que dépendant du camp, au début, on nous force à jouer les deux camps. Puis pour voir la différence dans le gameplay. Puis après ça, on nous dit bon, ben choisis ton camp puis commence ta campagne. On peut jouer un puis on peut jouer l'autre quand on veut. On peut changer quand ça nous tente, mais on nous lance vraiment l'idée de bon, essaye les deux camps au début puis après ça, tu fais ton choix. Les deux camps sont amusants. Les deux camps ont des choses intéressantes puis des choix de voitures différentes. Si on regarde le clan des coureurs de rue, il y a des voitures qui sont assez intéressantes. Je ne ferai pas la liste au complet parce qu'on va être encore ici demain matin. Mais on parle Aston Martin Vanquish, Audi R8 V10, Ferrari 458 Spider, Ferrari Berlinetta, Ford GT, Mustang GT et les amateurs de Mustang comme moi seraient heureux de savoir que dans Need for Speed Rivals, il y a eu une entente avec Ford et on peut conduire la Ford Mustang 2015. C'est le seul char que j'ai conduit dans le jeu. Quand j'étais coureur.
Toutes des chars qui trottinent assez bien, hein?
Ouais. On a aussi bon, Lamborghini Aventador, 50e anniversaire, un auto qui vaut 500 000 $. Porsche GT3, Porsche 918 Spyder, la nouvelle voiture hybride de Porsche, la 981 Cayman S, puis la Viper, Mercedes et tout ça, McLaren P1. Donc, beaucoup de voitures. Puis, si on joue les policiers, bon, on a aussi la Aston Martin Vanquish, on a Aston Martin 177, qui était une édition limitée, une Ford Shelby, une Ferrari FF, une NSI Venom GT, qui est un supercar américain, la Lexus LFA, on a la Nissan GT-R, on a la Koenigsegg Agera.
Hey, je commence à avoir mal à la tête, arrête.
Oui, il y a de la voiture, il n'y a pas tant de voitures que ça, mais ce qui est le fun, c'est que dépendant du côté qu'on joue, on a des voitures différentes. Bon, on commence simplement avec... une voiture comme du côté des coureurs, si je me rappelle bien, on commence avec on peut choisir la Mustang en partant, sinon je pense qu'on a une Porsche en commençant, puis après ça en jouant on peut débarrer d'autres voitures, donc le Dodge Challenge, le Challenger de Dodge, puis des choses comme ça. On débarre des voitures à mesure qu'on avance dans le jeu puis qu'on gagne des points. Donc, faut faire des courses, on a des challenges, on a des contre-la-montre, on a de courser contre une autre personne, on a des missions à accomplir à chaque étape. Puis quand on passe cette étape-là, on peut débarrer une autre voiture puis la conduire. C'est la même chose du côté policier, on a des missions, arrête une personne, utilise telle chose, le radar, ou utilise un barrage pour l'arrêter. Donc, on a plusieurs missions, choses à accomplir, puis ça nous fait débarrer une voiture. La deuxième voiture qu'on débarre pour les policiers, c'est le fameux Dodge Charger. Donc, c'est le fun. Il y a une belle présentation à chaque fois qu'on débarre une nouvelle voiture aussi. Ça a été bien fait. Graphiquement, c'est très beau. Comme je disais, moi, je l'ai joué sur PC. Graphiquement, c'est correct. Je pense que ça aurait pu être encore mieux. Bon, mon PC n'est pas une machine de la mort qui tue, mais c'est quand même une machine quand même pas si pire. Puis je trouvais que le graphisme aurait pu peut-être être une coche un petit peu plus haut. Mais c'est quand même super beau. C'est quand même très bien. Ironie, et je pensais que c'était juste de mon côté, mais j'ai lu quelques critiques sur Internet qui disent que c'est un jeu de voiture qui ne supporte pas le volant. Donc, vous pouvez pas installer un volant sur votre bureau d'ordinateur
c'est
et jouer
assez de
avec
base,
un volant.
Hein, pour un jeu de course, un volant?
Ouais, c'est, ouais, ben, peut-être qu'il y aura un volant dans le prochain Battlefield à la place. Ils sont peut-être juste trompés d'un développeur.
Peut-être.
Peut-être tu pourras utiliser un volant dans le prochain Battlefield.
C'est le seul moyen de contrôler Battlefield qui t'assure de n'avoir aucun bug. Parce avec que t'avances volant. Pas. Tu pèses sur le gaz puis le bonhomme reste là.
C'est ça.
T'envoies jamais des bugs avec ça maintenant. C'est le gros non. avantage.
Jamais, jamais. Mais c'est ça, c'est très bien, c'est un beau jeu, c'est le fun, il y a beaucoup de choses à faire, l'univers est quand même assez grand, on peut, en chaque mission, on peut juste conduire. Moi, c'est ce que j'avais aimé dans un jeu d'Atari qui s'appelle, le nom m'échappe parce qu'il faut que je le dise, Test Drive Unlimited. Puis, on pouvait juste conduire, on n'était pas obligé de faire des courses. Moi, étant amateur de voiture, j'aime ça juste conduire vite.
Tu parles d'Atari, de la compagnie de jeux et non pas la console de dans le temps.
La compagnie de jeux, okay. Pour encore des jeux.
Je suis là, OK, monde ouvert, se conduit.
Atari, ouais, dans le temps, en 8 bits.
Oh, même pas.
Non, récemment, ils ont sorti Need for Speed Unlimited et Need for Speed Unlimited 2 qui était moins bon parce que là, on a commencé à mettre une histoire là-dedans puis c'était comme un peu trop.
Mais il y avait des Underground que j'avais beaucoup aimé dans le temps. Justement, tu avais la possibilité d'être dans un monde ouvert puis tu te rendais dans un garage puis là, il y avait tu croisais des adversaires, tu décollais des courses quand tu voulais, tu sais, des choses comme ça.
Ouais.
Bien intéressant. On en a fait deux puis après ça, on a comme oublié la formule puis on a recommencé à faire des plus scénarisés, plus stricts, plus directs, une course à la fois puis tu peux pas, en dehors de ça, être dans l'univers. Je trouve ça plus dommage.
Ben, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est me promener, voir l'environnement qu'ils ont créé. Need for Speed, Test Drive Unlimited, c'était le fun parce que ça se passait sur l'île d'Hawaï, le premier. Fait que tu te promenais sur la côte avec l'océan, puis t'inquiète, c'était super beau. C'était le fun. Tu peux arrêter dans un garage, tu peux arrêter chez Ford ou tu peux arrêter chez Ferrari, rentrer chez le concessionnaire, puis marcher dans le concessionnaire, puis aller voir chaque voiture, puis décider quelle que t'achetais. C'était vraiment super le fun. Dans celui-là, bon, on débarre les voitures, ils apparaissent dans notre garage magiquement. J'imagine qu'on s'est fait livrer ou quelque chose comme ça. Mais on a aussi un peu le plaisir de pouvoir se promener. La seule chose, c'est que la police est toujours présente. Ce qui est amusant d'un côté, parce que c'est plus réaliste, mais plate d'un autre, parce que là, je décide, moi, je veux faire un contre-la-montre. Fait que j'ai une mission, fais un contre-la-montre, arrive à telle place avant tel temps pour débarrer. Bon, un succès, puis débarrer une autre voiture parce que c'est une des trois choses qu'il faut que tu fasses pour débarrer ta prochaine voiture. Tu pars, tu fais ton contre-la-montre. En plein milieu du contre-la-montre, il y a une police qui était stationnée là, à te part après. Là, il faut que tu échappes la police plus que tu fasses ton contre-la-montre. C'est deux choses, des fois, qui ne vont pas nécessairement ensemble. Fait que là, il faut que tu, finalement, scrapes la mission pour te sauver de la police, ce qui n'est pas nécessairement super difficile, là. On peut prendre des petits chemins de campagne et tout ça, sauter, puis la police, à un moment donné, on l'a peur, mais des fois, il y a des plans, il lâche des espèces de clous à terre. Là, les quatre nœuds sont flats, tu as de la misère à conduire l'auto, mais si tu conduis assez longtemps, puis tu te sauves, hop, les pneus se regonflent, puis tu es reparti.
c'est comme la livraison des chars, hein? Ça se fait un peu magiquement.
Oui, mais tu peux passer dans des garages, tu n'es pas obligé d'arrêter, tu passes dans le garage, puis ton char se répare automatiquement, mais il faut au moins que tu passes à la bonne place. Il y a des cachettes où tu peux aller te cacher, ou si tu peux changer tes autos, changer la couleur, puis ça. On peut modifier les autos comme tu as les couleurs de base de constructeur, puis après ça, tu peux mettre la couleur que tu veux, des collants et tout ça. Bon, si vous aimez ça, modifiez les autos, les couleurs. Moi, ma Mustang était jaune avec des jantes noires. Elle était vraiment écœurante. Mais bon, donc c'est le fun à conduire. C'est bien amusant. Mais j'ai trouvé que peut-être un peu moins de police pendant que tu fais tes missions, ça aurait pu être le fun. Jouer côté policier, c'est le fun parce qu'on voit à un moment donné, telle auto court après puis arrête là. Puis là, il se sauve, tu cours après, puis là, tu rentres dedans pour essayer de l'arrêter. Quand tu l'arrêtes un certain nombre de temps, il est calculé comme étant sous arrestation. Puis sinon, il se sauve, puis il peut repartir. Mais à un moment donné, tu as un hélicoptère qui vient t'aider pour te dire, OK, il vient te prendre tel chemin. Tu peux coller un barrage de police pour l'arrêter. Donc, c'est vraiment amusant pour ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais le jouer encore. C'est pas un jeu que je vais arrêter de jouer parce que la critique est finie. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Je me suis surpris à aimer ce jeu-là parce que je me disais, bon, un autre jeu d'IA, ça va être... Tu sais, c'est juste... Ils vont essayer de me vendre plein de chars en DLC. Puis finalement, les autos sont toutes là. En tout cas, moi, j'ai pas été voir pour les DLC. Ça m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup d'autos puis tu débordes à mesure avec des points dans le jeu. Fait que c'est vraiment le fun. Moins de police pendant les missions à faire, ça aurait été amusant. Mais autre que ça, c'est un jeu qui est super le fun. Je vais lui donner un beau petit 8. La musique est le fun. La musique est entraînante. On a le goût de jouer... C'est vraiment très bien. Les autos sont bien modélisées. C'est le fun. C'est un jeu qui est très bien. C'est un peu un mix peut-être en Burnout Paradise parce qu'on peut faire des sauts de la mort qui tuent. Puis l'auto est plus ou moins maganée. Mais il y a quand même des dommages à l'auto. À un moment donné, tu peux perdre un pare-choc, tu peux perdre des morceaux. Tes portes viennent bosser si les autos, les policiers te rentrent dedans ou si tu rentres dans un auto. Donc, tu sais. Il y a quand même de la modélisation de dommages qui est le fun, certes pas comme dans Grand Turismo où que les voitures se magasinent pas. Mais non, très bien, un bon petit jeu. J'ai resté surpris, donc bravo IA. Continuez sur ce lancer-là, puis lâchez les DLC un petit peu. Vous êtes capable de faire des jeux de qualité.
Complet et de qualité,
donc un petit 8.
Ah, c'est le fun à voir. Moi, je parle d'un jeu qui a une envergure pas mal moindre que ton jeu de EA, hein, on s'entend. Là. C'est un développeur indépendant qui se nomme Compulsion Games qui nous ont présenté un jeu qui était simplement en téléchargement, qui a longtemps été une exclusivité du côté de la PlayStation 3, maintenant disponible sur la 4, sur la Vita, la 360 et sur PC. Ça se nomme Contrast. C'est un jeu dans lequel on campe le rôle de Dawn, qui est l'ami imaginaire d'une petite fille qui s'appelle Didi. Cette petite fille-là vit avec sa maman, qui est séparée du papa de la petite, et qui chante dans les cabarets pour gagner sa vie. Son père à la petite fille est un genre de... Un genre de menteur compulsif. C'est un gars qui se lance dans plein de projets, toujours en train de mentir pour essayer de s'en sortir, puis on dirait qu'il prend toujours le pire chemin possible, les pires décisions, au lieu de la jouer franc-jeu, être clean, avoir peut-être un peu moins d'ambition, mais au moins pas avoir peur de se faire péter deux jambes à tous les fois qu'un de ses plans scrappe, parce que c'est un peu le cas. Et Didi, ben, elle aime beaucoup son papa, hein, c'est le meilleur au monde, il est génial pour elle, c'est son héros, et c'est un peu normal pour une petite fille que son papa soit son héros. Et elle va tout faire pour ramener ses deux parents ensemble et essayer de régler leurs problèmes grâce à l'aide de Dawn, le personnage qu'on campe, sa particularité, c'est d'être capable de passer du monde normal au monde des ombres, de se transformer en ombre pour longer les murs et après ça, sur les ombres, pouvoir passer par-dessus celles-ci pour atteindre des zones qui normalement seraient impossibles. C'est un jeu de plateforme et de puzzle. C'est un don de Daniel, c'est lui qui m'avait envoyé ça. Et je suis pas sûr que je le remercie. En tout cas, on...
Encore. Ça va pas bien, mes dons en hein, ton endroit. Hein?
C'est correct. Aïe, aïe. Le jeu, fait à noter, a les textes et les voix en français. Donc, pour un jeu indépendant qui est, je pense, disponible seulement en téléchargement, je pense pas qu'il y ait de version boîte, c'est une belle chose parce que ça ajoute à l'immersion pour les joueurs francophones. Le doublage est bien fait. On a fait du beau travail de ce côté-là. C'est très, très positif, cette petite notion. On se retrouve dans un Paris des années 20. L'ambiance, elle est extrêmement bien retranscrite dans ce jeu-là. On a l'impression là, d'être dans les cabarets, là, comme au Moulin Rouge, de se promener dans cet univers-là qui semble tellement, de nos yeux, être fantaisiste, mais finalement, il y en avait des problèmes quand même à cette époque-là. Oui, ça semble être romantique, mais il n'y a rien qui est vraiment parfait. On va devoir donc aider Didi dans ses différentes péripéties pour aider ses parents à se remettre ensemble et à régler leurs problèmes. Et on va jouer énormément avec les ombres en déplaçant des objets versus les sources de lumière pour pouvoir s'offrir des plateformes pour pouvoir se rendre à travers l'univers et remplir nos différentes missions pour pouvoir résoudre les puzzles. L'ambiance est bonne, l'ambiance elle est un petit peu magique, c'est plaisant de naviguer dans cet univers-là. On sent que le travail a été bien fait côté recherche pour nous présenter un univers qui se tient. C'est correct, ça. Ça se fait très, très bien. On comprend Didi, ses objectifs et Dawn, pourquoi qu'elle l'aide, son ami imaginaire. On nous explique au fur et à mesure pourquoi qu'elle existe pour vrai, cette amie imaginaire-là, mais je vous laisse le secret, je vous laisse le découvrir. On a une belle relation avec la petite fille, parce qu'on ne l'a pas dans nos jambes. C'est drôle à dire, mais des fois, tu sais, un personnage de nos joueurs qui nous suit tout le temps, ça peut être dérangeant. Là, souvent, elle va nous donner des objectifs, reste à une place, on remplit l'objectif, et là, ben, après ça, elle va continuer dans une genre de simili-cinématique. Donc, on ne l'aura jamais vraiment dans nos pattes, et c'est tant mieux. Ce qui est agréable aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui a clairement une volonté d'être différent des autres, d'avoir son âme à lui, d'avoir ses objectifs, d'avoir ses buts qu'il atteint. C'est un titre qui est fort agréable et en plus, il est vraiment pas cher, comme c'est un titre seulement en téléchargement. Il n'est pas très long. On parle ici là, entre 5 et 10 heures, dépendamment comment est-ce que vous allez remplir les objectifs et résoudre les énigmes. Ça sera pas tellement long de traverser ce jeu-là. Et il est, ça c'est peut-être un petit peu dommage, il est un peu trop facile. Les énigmes, on les voit venir souvent. Qui dit jeu indépendant, dit petite équipe, dit... Ben, on n'avait peut-être pas tout le temps et toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce qu'on voulait à 100%. On a parfois l'impression que les univers sont vides, les endroits qu'on visite. Et ça nous amène donc à avoir des énigmes. On nous présente les objets qu'on peut déplacer, avec lesquels on doit interagir. Et comme les environnements sont vides, on voit vite les objets clés. T'sais, c'est comme si l'univers se centrait sur ces objets-là. Bon, on fait comme, bon, okay, c'est la seule patente qu'il y a dans la pièce, ça doit être ça. Hein? Donc ça, c'est un peu dommage. Ça rend le jeu extrêmement facile. Et plus c'est facile, plus on remplit des objectifs vite, plus on avance dans le jeu rapidement. Et donc, la durée de vie, ben, s'en ressent aussi. Le plus gros défaut de ce jeu-là, c'est vraiment dans la maniabilité de Dawn, notre personnage. On se croirait revenir dans les années 2000, voire milieu des années 90, dans les premiers jeux en 3D. C'est tellement rigide, c'est tellement rapide. Le changement de direction, c'est pas clair, ça va trop vite. C'est comme si le personnage... Ben, pas glissait, mais courait partout, puis on n'avait pas le contrôle totalement. On vire, c'est loin d'avoir de la souplesse. On dirait qu'on vire à des angles d'à peu près 15 degrés, puis on passe des différentes coches de 15 degrés tellement rapidement de l'une à l'autre. C'est un peu archaïque de la façon qu'on se déplace. Et qui dit platformer en 3D dit une demande de précision assez élevée. Et Dieu seul sait comment est-ce que j'ai repris des phases de plateforme, de puzzle, de plateforme à plusieurs occasions parce que, justement, on arrivait dans une zone qui me semblait tellement facile, mais le contrôle du personnage me faisait me planter, me faisait sauter à côté. Je voyais mal où est-ce que je devais m'en aller. Je contrôlais mal le personnage. La maniabilité du personnage devient un quotient de difficulté. Et ça, moi, ça me désole quand je vois ça. C'est correct qu'un jeu soit dur. Mais je veux avoir l'impression que c'est parce que moi, je fais une erreur que le jeu est dur. Pas parce que le jeu est mal codé. Ça, dans ce temps-là, c'est désagréable. C'est pas plaisant parce que t'as l'impression que tu peux rien y faire. Pis ça, ben, c'est pas le fun. On veut pas ça dans un jeu vidéo. Autre notion, on passe du monde de la lumière à le monde des ombres. Et on va nous demander de traverser, de passer de l'un à l'autre pour résoudre des énigmes. Et on va nous demander de déplacer des objets pour faire des ombres et passer de l'un à l'autre. Et il y a, on dirait qu'on se fait tout le temps éjecter du monde des ombres. Le moindrement qu'on n'est pas à 100% pile à la bonne place, qu'on accroche un petit peu, on se fait éjecter. Et ça, c'est comme si on glissait du monde des ombres. Il arrive des on n'a comme pas de place pour se raccrocher, c'est tout en courbe et le personnage bouge de façon très très rigide. Ça amène encore une fois une notion de complexité dans les déplacements qu'on a besoin de faire. C'est dommage. J'ai eu souvent l'impression que bon ben c'est parce que le jeu est mal conçu, c'est mal découpé, ce pourquoi je n'étais pas capable d'atteindre les plateformes que je voulais atteindre. Puis ça, c'est un peu plate, donc là-dedans. Le fait qu'il est très court et aussi ben, les environnements qui sont un peu vides nous amènent à avoir un titre qui est assez moyen. Ça sera pas une critique très très longue, le jeu est pas très long. Si vous avez le goût de le découvrir, il est pas très cher. Ça peut valoir la peine pour l'ambiance, pour l'histoire. C'est une belle histoire. On a des belles petites scènes. Entre autres, à un moment donné, la petite fille, son père, il organise un carnaval. Et le père, il a perdu les personnages de la pièce de théâtre. Et donc, on va faire un peu comme des ombres chinoises. Et notre personnage va devenir, va prendre un rôle dans la pièce de théâtre et va remplir les épreuves. C'est la petite fille qui narre, qui dit... Et là, ben, notre princesse rencontre un ours et doit l'éviter. Fait que là, tu évites l'ours. Il arrive telle affaire. Puis c'est toute la petite fille qui narre pendant que toi, t'es en train de faire les trucs que t'as à faire. Il y a une belle inventivité, il y a une belle imagination dans ce jeu-là. C'est juste plate que le côté technique soit pas capable de rendre le jeu au niveau où est-ce que l'idée pourrait être amenée. C'est ça qui est un peu dommage. Pour toutes ces raisons-là, je vais y aller avec un 6.5 sur 10 à cause des petits problèmes techniques, comme je vous ai dit. Mais c'est quand même une belle expérience à vivre. Attendez qu'il tombe en rabais. C'est pas un titre à dédaigner. C'est juste un titre à faire attention de ne pas acheter à plein prix. Mais bon, vous ne serez pas nécessairement déçus. Il faut juste savoir à quoi s'attendre avant d'embarquer dedans. Donc, le jeu s'appelle Contraste. C'est correct, c'est une belle petite idée. C'est juste pour amener jusque-là où est-ce qu'elle pourrait se rendre. C'est un peu dommage. Que voulez-vous?
Il y a quand même eu des bonnes ventes pour ce jeu-là. Ça a fracassé 1 million.
Oui, mais tu sais, il est sur plusieurs plateformes. Je comprends, il y a un charme. Mais tu sais, c'est bien beau une bonne idée, tu sais. Mais si t'es pas capable de l'amener pour qu'elle soit agréable à traverser, c'est un peu dommage, tu sais. Mais je comprends le pourquoi que ça a vendu pas très cher sur plusieurs plateformes. Je peux comprendre, ben, mais le rendu est pas adéquat à mon avis.
Ben, tu sais, je te l'avais dit quand je t'avais donné ce jeu-là, je t'avais dit ouais, ça serait un jeu que j'aurais gardé, tu sais, parce que le style apparaît quand même super intéressant. Ça me fait un peu penser, il y avait un jeu sur Wii qui était sorti où justement tu jouais beaucoup avec les ombres. Désolé, je m'en rappelle plus. Je pense que c'était Lost in Shadow, quelque chose de même.
OK.
Et où justement tu jouais avec les ombres. Puis c'est pas un style de jeu habituel ou conventionnel. Fait que c'est sûr que ça attire parce que ça a l'air à briser des...
Faut que tu penses différemment. Puis ça, les gens, ils aiment ça. Puis je comprends le pourquoi. Ça a un attrait. Ça a un petit quelque chose de charmant. Sauf que le rendu est pas bon, tu sais. Les ombres, c'est jamais douette. Les sources de lumière, c'est toujours un peu croche. Puis t'as tellement l'impression de te faire éjecter du monde des ombres pour rien. Des fois, t'amènes des objets avec toi, tu peux les amener avec toi dans le monde des ombres. Puis là, ben, pour une raison XY, il y a deux ombres qui se touchent, puis ton objet touche en même temps. Oh, l'objet vient d'exploser en dehors des tu sais, il y a tout ce côté-là technique, comme si la boîte, il y avait l'idée, mais ils n'ont pas été capables de l'amener jusque là où elle devrait être. Je me répète un peu, là, mais c'est vraiment le plan technique le problème dans ce jeu-là. C'est pas l'idée, c'est pas le concept, c'est pas l'histoire, c'est ce que le joueur est amené à faire qui est problématique. C'est plate, hein, mais c'est le jeu qui est poche, c'est pas l'enrobage qui est alentour.
Ben, peut-être que c'est un premier pas pour ce développeur indépendant-là. Peut-être la suite va être meilleure. Ben, la suite des choses, je parle pas nécessairement de la suite de Contraste, là, mais on verra.
On verra. Si jamais vous voulez un jeu un peu dans cette thématique-là, les ombres, tout ça, et qui est acclamé par la critique, allez-y avec Limbo. C'est tout en noir et blanc. Mmh. C'est un petit garçon qui est sans défense, qui doit résoudre des petites énigmes pour pouvoir avancer et sauver sa petite sœur. C'est en noir et blanc. Et il y a des morts là-dedans. Là. Vous pensez que Tomb Raider a mangé une volée là, quand elle mourait dans le dernier jeu là, de la série. Là-dedans, là, t'as mal en sapristi pour le petit bonhomme. Puis c'est violent. Puis une chance que c'est en noir et blanc parce que c'est graphique pas à peu près comme mort. Là.
Ouais, c'est assez glauque comme ouais. jeu. c'est morbide. Tu files bizarre en jouant à Limbo.
Ouais, vraiment.
Jeu que j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas. Tu sais. Je sais pas si tu te rappelles la séquence au début avec l'araignée.
Oui, écoute, es-tu... T'as la chienne, là. Tu fais comme, oh shit, elle s'en vient. Non! Non!
Pim! Ben, ça fait très cauchemar.
Oh, ouais, non, vraiment. Et, tu sais, t'as des endroits, il y a des sirons, des affaires la même. Faut que tu sautes, là. Écoute, ton petit bonhomme, il doit avoir 4-5 ans, tu sais. Il est là, puis il est tellement dépourvu devant cet univers-là qui, tu sais, veut sa peau, là. Non, c'est vraiment c'est une bien meilleure expérience. Puis en plus, il y a 2 ou 3 ans ce jeu-là, fait que tu sais, tout petit prix, donc passez pas à côté de ce jeu-là. Je pense que dans le temps, c'était une exclusivité Xbox. Je sais pas si c'est encore le cas, par exemple.
Non, disponible
maintenant, sur ouais.
PlayStation Network, Steam aussi, me semble.
Okay.
Ouais. Ouais.
Bon, ben c'est good, allez-y. Tout de go pour ce jeu-là.
Ouais. Oui.
Donc voilà pour cette semaine pour l'émission de la réalité augmentée. Si jamais il y a des gens qui veulent nous rejoindre, on va y aller chacun notre tour avec les endroits où est-ce qu'on est accessible sur le web. Vas-y, Daniel, pour commencer.
Ben, certainement, je vais y aller. Donc, contrairement à mes autres semaines, je ferai pas de petites blagues. Là. Donc, on peut me retrouver sur Twitter à DracoADG. Donc, followez-moi, s'il vous plaît. J'ai l'air à quémander, mais j'ai perdu quelques abonnés récemment. Je sais pas pourquoi. Putain, je suis tellement sympathique sur Twitter. Mais en tout cas, sinon, vous pouvez me retrouver sur affairesdegas.com. Publie assez régulièrement des articles, jeux vidéo, criminalité et autres choses. Donc, allez-y, allez me lire et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur les articles. Ça va me faire plaisir.
Luc, de ton côté?
Ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Scalazormo. Il y a aussi mon site cjop.com qui va peut-être déménager, même s'il n'y a plus vraiment grand-chose dessus. J'enlève tout dessus Tumblr. Le podcast auto aussi déménage au podcastauto.ca. Puis il y a aussi le site de la réalité augmentée là, qui est realitéog.com qui est rendu sur WordPress. Donc les podcasts sont disponibles là en téléchargement si vous voulez y aller. Il y a aussi bon les autres sites Affaires de gars puis la zone technoculturelle. Puis vous allez pouvoir me lire à partir de la semaine prochaine sur le blog de Kijiji. Je vais écrire des articles pour eux tout au long de l'année sur l'automobile. Donc si vous voulez aller me lire, ben vous allez pouvoir trouver ça sur le site de Kijiji. Je vous donnerai l'adresse un coup que ça sera commencé, que ça sera en ligne.
Parfait.
Puis toi, j'aime ça, JB. Oui.
J'aime ça t'appeler Monsieur Kijiji.
Monsieur Kijiji.
J'aime ça, j'adore.
Ah, Mister Kijiji.
Tu peux y aller, je suis sûr que ça va faire plaisir à Kijiji parce que tu vas nommer le nom de leur compagnie chaque semaine.
En effet.
Tu plugues en passant, tu sais.
C'est ça.
Moi, de mon côté, je suis toujours celui qui gère le compte officiel de la réalité augmentée sur Twitter, @realitéhog. Sinon, il y a mon compte personnel, gangj_b. Ça vous tente de gamer Steam aussi, gangjb, c'est tout le temps la même affaire, là, et sur Xbox 360 aussi. Et bientôt sur la One, éventuellement, là, dans les prochains jours, j'y serai. J'ai hâte de jouer à Forza. Aussi, on a toujours la page Facebook de la réalité augmentée, facebook.com/realitéhog, où les trois garnements, on a les clés, on diffuse les différents textes de Daniel avec grand bonheur. Et parlant de textes sur affairesdegars.com, je me suis gâté, je me suis payé un petit trip funné. Vous aurez l'occasion de me lire. Ma plume est peut-être un peu rouillée, on verra. Là. J'ai publié un top 5 des armes les plus absurdes, inusitées, drôles et efficaces dans le domaine du jeu vidéo. Petit top 5 bien personnel, j'ai pas joué à tout ce qui existe dans l'univers du jeu vidéo. Donc si vous avez le goût de discuter là-dessus, faire valoir vos idées, allez-y, ce sera bien apprécié.
J'ai hâte de voir si tu vas battre la tentacule de Saints Row 4, là, mais en tout cas.
y a un petit peu de Saints Row 4 dans mon top 5. En tout cas, vous verrez dans le cadre de cet article-là qui est sur affairesdegars.com. Sinon, c'est pas mal ça pour me rejoindre. On a toujours l'adresse courriel, la réalité augmentée, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. C'est une autre façon de nous rejoindre les trois ensemble. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Luc. Merci Daniel. Ça fut encore une fois un plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.
Bye.